Chapitre 24. La folie Mazarin. Jeudi, 17 août 2000, 23h, port de Saint-Argan, île de Mornecey. Torse nu, vêtu d'un simple caleçon, dans son minuscule studio, Simon contemplait Candice, allongée dans son lit, endormie sur le ventre. La jeune fille était arrivée tard, avait dévoré tout ce qu'elle avait trouvé de comestible dans la chambre, deux tomates, un paquet de chips entamés, du Nutella à même le pot. Elle avait fait valser son caraco de dentelle blanche, sa petite jupe de toile beige, et ils avaient fait l'amour, pressés, plus rapidement encore que la veille. « Épuisé !» avait soupiré Candice en s'écroulant sur le matelas. « 15 jours que je dors 4 heures par nuit. » Simon ne fit aucun commentaire. Il n'avait pas renoncé pour autant à joindre l'utile à l'agréable, têtu jusque dans l'intimité. « Candice, avec ton travail, tu dois sûrement avoir des détails sur le terrain de l'abbaye Saint-Antoine. Le terrain autour des ruines, les fouilles, les projets. » Candice poussa un soupir tout en s'étirant dans les draps. « Je ne vois pas ce que tu trouves comme intérêt à ces ruines sinistres. Je pensais que tu allais plutôt me parler du cadavre retrouvé sur la plage. Ce type au nom polonais, déterré par un môme. On ne parle que de ça sur l'île, sur toutes les télés. Les flics ont l'air largués, et toi tu as une piste ?» Candice jouait les chattes à l'anguille sur un matelas brûlant. Simon hésita un instant à rejouer la touche Bruce Willis, à révéler à Candice qu'il était loin devant les flics, détailler ses découvertes de l'après-midi. Une sorte d'instinct lui conseilla la prudence. Il se retint donc et revint à la charge par une voix détournée. « Je peux rien te dire, tu te doutes. Mais je pourrais avoir besoin de toi, par contre. Si tu avais des données sur ce foutu terrain de l'abbaye. Je sais pas, n'importe quoi, un détail, une info, des archives. » Candice se releva. Le drap glissa. Ses petits seins cratères jaillirent, presque en éruption. Bruce Willis pouvait aller se rhabiller. « T'es lourd à la fin. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. » « Comment ça, moi aussi ?» Des putains de gosses m'ont déjà pris la tête toute la journée. Des morveux indécollables avec des questions à la noix sur l'abbaye, les moines et la folie Mazarin. Alors tu vois, Navarro, les ruines, j'en ai ma dose aujourd'hui. » Elle se coucha à nouveau sur les draps défaits, allongée sur le ventre, ne dissimulant qu'une seule partie de son corps nu, sa tête sous l'oreiller. Simon pesta. Il s'occupa les mains en rangeant avec méthode le paquet de chips et le pot de Nutella sous l'évier. Candice avait tout laissé en plan, comme si son emploi du temps était minuté. Repas en quelques minutes, câlin en à peine plus, dodo. La belle en savait-elle davantage qu'elle ne voulait en dire? Pourquoi cherchait-elle systématiquement à éluder tout ce qui concernait son travail à l'abbaye, tout en s'intéressant à son enquête? Si secrète, si impudique aussi. Simon se baissa pour ramasser les habits que Candice avait éparpillés en hâte dans la chambre, quelques pièces légères de coton et de nylon qu'il n'avait même pas eu le temps de caresser, les posa au pied du lit et admira la longue pente de son dos bruni par la lumière tamisée de la chambre mansardée, la respiration de ses petits seins, écrasés sous elle, la courbe de ses fesses entre les plis des draps. Dans le creux des reins de Candice, un détail attira son regard, un petit papillon bleu et noir tatoué. Simon ne l'avait pas remarqué la veille, dans la pénombre de la plage, à moins que l'insecte ne soit venu se poser sur sa peau depuis hier. Simon tournait en rond, inactif. Sa chambre de bonne mesurait moins de 15 mètres carrés. Un scandale, le traitement des emplois jeunes par la mairie, même s'il était logé gratuitement et ne pouvait donc pas se plaindre. Un accord obscur entre le patron de l'hôtel et le maire. Unique avantage de sa garçonnière, il avait une vue imprenable sur le port. Une vraie tour de contrôle à Bimbo. Petit, mais pratique. C'est là qu'il avait repéré Candice, à une terrasse, la première fois. Simon repensait à cette histoire de plan d'occupation des sols falsifiés. Il tenait la preuve, formelle. Seul Jean-Louis Valerino avait eu la possibilité de monter un tel coup. Était-il le premier à faire le rapprochement 10 ans après cette affaire? À l'époque, en 1990, personne ne pouvait soupçonner un jeune stagiaire. Mais aujourd'hui, quel pouvait être le lien avec l'évasion de Valerino? Cette affaire de permis de construire semblait simple et bouclée. On rend frauduleusement constructible un terrain qui ne devrait pas l'être. Le résultat est presque logique. Accident sur le chantier, mort, scandale. Mais Jean-Louis Valerino passe à travers les mailles des enquêteurs. La chaleur était suffocante. Simon alla ouvrir la fenêtre de sa chambre. L'air du large fit voler les rideaux. Il respira profondément. Candice frissonna un peu, se retourna, tira un drap sur elle, qui retomba presque aussitôt. Simon se demandait ce qu'il pouvait bien faire d'une telle information, au moment même où Valerino se cachait quelque part sur l'île. Lui fallait-il livrer la preuve à la police ? Oui, sans doute, mais il serait alors immédiatement mis sur la touche. Un simple emploi jeune, de quoi se mêlait-il ? Pourtant, ce tueur se cachait sur l'île. Même si, finalement, rien ne prouvait que Valerino soit l'assassin de son compagnon d'évasion. Qu'avait-il à révéler au final à la police ? Une histoire de fraude vieille de 10 ans ? Non. Il fallait continuer d'enquêter sur ce terrain, sur cette fameuse parcelle passée du code ND au code NA, ce terrain entre l'abbaye et la mer, ce fameux projet immobilier, les sanguinaires. La clé était là. Qu'avait-il de si particulier, ce terrain de l'abbaye ? De si particulier aujourd'hui pour pousser Valerino à prendre tous les risques pour s'échapper, pour tuer. Cette vieille histoire de folie Mazarin, de trésor des bénédictins, ressurgit dans la tête de Simon. Le lien ? Pourquoi pas, après tout ? Candice semblait profondément endormie. Il passa la tête par la fenêtre et, de sa tour de contrôle, observa le port. Jamais encore depuis le début de l'été, il ne l'avait connu aussi désert. Le contraste était saisissant avec l'affluence des autres soirs. Il faisait pourtant un temps magnifique, une belle chaleur de nuit tamisée par une brise légère. Tout le monde avait vraiment fichu le camp. La catastrophe pour le tourisme local, l'effet des médias. Même l'hôtel du Grand Cormoran s'était vidé. Avec de la chance et un peu de négociation, il pourrait peut-être récupérer une chambre plus correcte que ce trou à rats. Ce n'était même pas certain. Le patron n'était pas du genre à faire des cadeaux. Plutôt dur en affaires, comme tous les gens sur cette île d'ailleurs. Bien fait pour eux, finalement. Ce cataclysme touristique, ce raz-de-marée du 17 août, ça leur apprendra à soutenir des associations de malfaiteurs dans le dos des touristes innocents. Cette mafia insulaire, cette Sicile discrète version anglo-normande. « Eh patron, elle est vide, ta terrasse, et pas à cause de l'averse de cet après-midi. » En réalité, sur la terrasse, on pouvait tout de même compter quelques clients, surtout des autochtones. En se penchant un peu, Simon reconnut Delpech. Ils dînaient en couple. Il était attablé avec une somptueuse blonde qui tournait le dos à Simon. Il ne distinguait pas son visage, mais seulement une superbe robe très échancrée qui dévoilait un dos idéalement bronzé, presque jusqu'à l'arrêt des fesses. Sans parler de cette chevelure blonde qui tombait en cascade sur des épaules caramel. Un canon. Encore un. À croire que seules les plus belles femmes de l'île étaient restées sur Mornecey après l'exode. Comment faisait-il, Delpech, à son âge ? Où allait-il les chercher, ces poupées Barbie ? Le regard de Simon descendit sur les jambes cuivrées de la compagne de Delpech, jusqu'aux étroits mollets, aux pieds nus, aux ongles peints, en rouge vif. Clara. Nom de Dieu, jura Simon. Clara ? C'était vraiment Clara ? Incroyable, pensa-t-il, l'effet de son bronzage sous les lampions du soir. Merde, jura à nouveau Simon. Elle va tout déballer au journaliste. Elle va lui servir toute mon enquête. Simon attrapa un t-shirt, enfila un pantalon, jeta un regard à Candice, toujours endormie, et, quelques instants plus tard, se fraya un chemin parmi les chaises et les tables vides de la terrasse du Grand Cormoran. En le voyant, Delpech afficha un grand sourire, apparemment sincère, et s'écria « Simon Casanova, le dernier homme juste de l'île de Mornecey !» Clara se retourna et le gratifia également d'un large sourire. « Waouh ! Monsieur le commissaire sort de sa tanière !» Simon avait craint d'être accueilli froidement, comme un gêneur. Surtout par Clara. Finalement, ce n'était pas le cas. Sans doute trouvait-elle flatteur d'être accompagnée de deux hommes. Clara avança vers lui une chaise basse en rotin. Non, décidément le visage de la secrétaire était trop fané. Même si le corps, surtout de dos... « Je te la laisse, Delpech, » pensa Simon. Il souriait intérieurement de ses pensées macho. Il commanda une bière blanche avec une rondelle de citron. « On était en train de parler de Valerino !» expliqua le journaliste avec entrain. « Tout le monde ne parle que de ça, tu penses ? Du moins, ce qui reste !» Simon chercha le regard de Clara, mais celle-ci fixait, les yeux dans le vague, les guirlandes lumineuses accrochées au mât des bateaux de plaisance dans le port. « Alors, ton enquête avance, petit ?» demanda Delpech. « Si on veut, comme on peut. »« Sois pas modeste !» ironisa Clara. Simon tenta de lui donner un coup de chaussure sous la table, mais il ne parvint qu'à atteindre le pied de la chaise. Clara continua. « En 3 coups de téléphone et rien qu'une calculette, tu verrais ce qu'il sait faire. » L'œil affûté de Delpech brilla.
Et
Tut-tut-tut-tut, s'amusa Clara. Top secret. Didier, c'est toi qui as une dette pour hier soir, pas moi.
Simon respira, amusé. Ainsi, Delpech se faisait appeler Didier par Clara. Simon pensa que cela cassait le personnage. Tout le monde sur l'île ne l'appelait que par son patronyme, Delpech, celui avec lequel il signait tous ses articles. Clara se pencha pour attraper avec sa petite cuillère la chantilly de sa pêche Melba, prenant bien soin d'offrir au journaliste une vue plongeante sur son décolleté. Curieusement, Delpech n'insista pas sur cette histoire de téléphone et de calculette. Cela surprit Simon.
« Tiens, il ne mord pas à l'hameçon ? Ou bien il attend que je ne sois plus là ?»
En fait, Delpech avait déjà rédigé ses articles pour le numéro du lendemain. Tout était sous presse. Il titrait sur le lien entre Valerino et l'accident des sanguinaires, la responsabilité de la mairie, où Valerino travaillait à l'époque. Il n'avait rien de plus, mais était au moins certain que l'effet de surprise de la une suffirait à faire vendre. Seule Clara savait que les deux hommes suivaient la même piste et que Simon Casanova possédait d'ailleurs une bonne longueur d'avance. La secrétaire observait leur petit jeu, comme on regarde une partie de poker en connaissant la main des différents joueurs. Elle dévora avec envie une cuillère de glace à la vanille et but sous le nez de Simon une gorgée de sa bière blanche. Delpech insista cependant, pour la forme, pour donner le change.
« Allons, Clara, au train où vont les choses, on va bientôt avoir l'île de Mornecey entièrement pour tous les deux. Regarde, on a déjà presque la terrasse pour nous. Alors tu ne vas pas me faire la tête parce qu'hier soir, il fallait que je travaille. Vous faites quoi avec une calculette ?»«
De la géométrie, » lança Clara, mystérieuse, en léchant de sa langue un morceau de chantilly sur ses lèvres.
« De la géométrie ?»
interrogea Delpech, surpris.
Simon eut peur qu'elle n'en dise trop. Il n'en fallait sûrement pas beaucoup à Delpech pour comprendre. « Vite, trouvez une diversion.
« Pendant que je vous tiens, Didier, » lança Simon, « cette histoire de folie Mazarin, c'est quoi au juste ?»
Delpech regarda le jeune homme avec amusement.
« On abat son jeu, Casanova ? On a peur que la belle Clara en dise trop ? Alors on tente de détourner l'attention ? Tu préfères la jouer cavalier seul, alors ? Tu te méfies de tout le monde sur l'île, hein ? T'as raison, remarque. Mais d'un autre côté, faire cavalier seul ici, sur cette île, c'est plutôt dangereux. Surtout en ce moment. Tu dois commencer à voir ce que je veux dire ? Il ne doit pas manquer d'archives surprenantes, le grenier de la mairie, si t'as mis le nez dedans. »
Simon se redressa. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est vous qui faites diversion. Delpech prit le temps de vider son whisky.
Ok, tu veux tout savoir sur la folie Mazarin ?
Clara poussa le soupir de celle qui connaît l'histoire par cœur.
Alors c'est parti, mon garçon. Tu as affaire au meilleur spécialiste de la question de l'île. C'est pas difficile, remarque. Tous les autres sont morts.
Il arbora un étrange sourire qui fit frissonner Simon. Le journaliste commença son récit.
Mazarin était un personnage important de l'île. La prison de l'île, l'ancienne citadelle, porte son nom. On peut pas non plus rater sa statue juste à côté, au beau milieu de la place du 20 mai. Une belle statue commandée par le maire de l'époque, il y a plus d'un siècle, sous la Troisième République. Le regard droit vers l'horizon, en grande tenue de cardinal, son parchemin serré entre ses bras croisés. Si l'île de Mornecey n'a jamais été abandonnée aux Anglais, comme la plupart des autres îles anglo-normandes, ce serait grâce au souvenir de Mazarin. En fait, on raconte que le cardinal est tombé amoureux de Mornecey. Il venait souvent ici, presque tous les mois. S'il n'a pas fondé l'abbaye Saint-Antoine, c'est lui qui l'a relevée, reconstruite, après son déclin au XVe siècle.
Pourquoi avait-elle décliné ?
Une épidémie de peste, à ce qu'on raconte. Sous Mazarin, le nombre de moines dans l'île aurait triplé. C'est du moins ce que les ruines semblent révéler. C'est lui aussi qui aurait fait percer la plupart des souterrains. La prospérité de l'île vient de ce temps, bien avant le bagne.
Clara tournait le regard ailleurs. Simon, lui, ne lâchait pas Delpech des yeux. « Pourquoi un tel amour de l'île chez Mazarin ? » demanda-t-il. « Il était d'ici ? » ?»«
Pas du tout. Il était italien, d'origine sicilienne. Et Mornecey n'était pas sa seule maîtresse. On le surnommait « cardinal aux 25 abbayes ». Il collectionnait les plus riches du royaume. Cluny, Saint-Denis, la Chaise-Dieu... Un record dans l'histoire de France. Un record en termes de bénéfices ecclésiastiques également.
La culture de ce Delpech fascinait Simon. Incontestablement, il maîtrisait son sujet. Le journaliste poursuivit.
Avec sa fortune, il finança par exemple, avec un faste sans précédent, le sacre du jeune Louis XIV, son filleul. Ses bénéfices sans limite, issus de ses abbayes, firent aussi de lui le plus grand mécène de son époque. Livres, peintures, sculptures, y compris des nus, peu en rapport avec son statut de cardinal.
Mais alors, pourquoi Mornecey ? Demanda Simon.
On évoque souvent des raisons stratégiques. la lutte millénaire contre les Britanniques dans les îles anglo-normandes. Les Anglais ne sont jamais parvenus à prendre Saint-Malo ou le Mont-Saint-Michel. Mais la citadelle de Morneçay, comme les forts voisins de Chaussée ou Tathieu, fut plusieurs fois attaquée au cours des siècles, bombardée, incendiée. Avant que Mazarin ne s'en mêle et ne la fortifie façon Vauban. Mais le plus souvent, bien entendu, on parle de sa folie. « On y arrive !» fit Clara qui grattait les résidus de chantilly dans le fond de sa coupe Melba. « Alors, la folie ?» reprit Simon. « T'as qu'à lire Lilien ?» trancha Clara. « Même ritournelle depuis 10 ans. Ça ferait 11 cette année si quelqu'un n'avait pas eu la bonne idée d'enterrer un cadavre sur la plage. » Delpech rit de bon cœur. « Bon, je vous la fais courte, sinon je sens que Clara va aller se coucher et nous laisser tous les deux. » Il alluma une cigarette. Une Jarum, une marque rare indonésienne qui sentait le clou de girofle. Clara bâilla.
Toute cette histoire de folie Mazarin, commença-t-il, est partie d'une référence très précise. Une seule, dans une des lettres de Madame de Sévigné. Vous voyez de qui il s'agit, Casanova ?
Madame de Sévigné est la plus célèbre chroniqueuse de la vie à la cour du roi Soleil, pendant le grand siècle, le siècle de Mazarin. Elle aura écrit plus de 1000 lettres, principalement à sa fille. La plupart ont été publiées, certaines sont encore inédites. Dans une de ces lettres, datée du 12 avril 1659, on peut lire ces phrases étranges. « Mazarin l'Italien a conquis la cour par son talent d'orateur, son sens des intrigues politiques et sa profonde érudition, mais surtout par sa fortune qui lui venait de la petite île de Morneçay. Ce trésor unique dont il était fou, avec lequel il sut corrompre la noblesse de France, cette source inépuisable de richesses dont la cour de France était folle. Sans ce trésor, le sacre de Louis XIV n'aurait pas eu le même éclat. »
Qui a exhumé cette citation ?
Jean Rémy, un historien archéologue tombé amoureux de l'île. Un type étonnant. Moi qui l'ai croisé un peu. Une culture. Pouf !
Et plus précisément, demanda Simon, il consistait en quoi ce trésor ? Clara prit un air supérieur en affichant ses bagues de verre colorées. Or, bijoux, pierres précieuses, il n'y a que l'embarras du choix.
Delpech enchaîna.
Ou trésor romain, butin viking, trésor des Templiers, économie millénaire des moines, coffre-fort discret de la fortune inépuisable de Mazarin. En fait, on ne sait rien de plus. Rien de plus que les 6 lignes de cette lettre.
Tout ça pour ça ? S'étonna Simon. 6 lignes perdues parmi plus d'un millier de lettres ?
Il n'y a pas de fumée sans feu,
commenta Delpech en tirant une bouffée. Madame de Sévigné était une chroniqueuse très fiable. Donc il y avait bien un trésor sur l'île du temps de Mazarin. Et comme elle évoque une source inépuisable de richesses, on peut supposer...
Personne n'a jamais rien trouvé, coupa Simon.
Jean-Rémy a cherché toute sa vie. Toute sa courte vie, je devrais dire.
Moi, je me suis contenté de trouver un nom accrocheur, la folie Mazarin, et de faire rêver avec cette histoire les touristes tous les étés. Folie Mazarin, ça rappelle un peu Chili Mazarin. Ça parle aux Parisiens.
Vous leur racontez quoi aux touristes, à part les 6 lignes de Madame de Sévigné ?
Delpech regarda Clara, qui lui rendit un sourire résigné.
La totale alors ? C'est parti. On sait que l'île de Morneçay a été une île prospère, très prospère, jusqu'à la Révolution française. En 1789, l'abbaye fut rasée, les moines chassés, les biens vendus. L'île tomba dans un profond marasme. La seule activité fut la transformation de la citadelle en bagne. C'est dire, le terrain de l'abbaye, celui qu'on appelait les Sanguinaires, fut vendu aux plus riches agriculteurs de l'île, qui achetèrent le terrain à prix d'or, d'après les archives dont on dispose. On ne sait pas pourquoi ce morceau de lande entre une abbaye rasée et la mer valait tant à l'époque. Une famille de 4 frères. Ils devinrent rapidement encore plus riches, toujours si l'on se fie aux archives. Ils investirent sur le continent. Pourtant, dans les 2 ans qui suivirent, ils s'entretuèrent, sans que l'on sache pourquoi, là encore. Les histoires de famille figurent rarement dans les actes notariés. Le terrain restera alors sans propriétaire, ou presque, pendant plus de 100 ans.
C'est vous qui avez retrouvé tous ces détails ?
Non, c'est toujours Jean-Rémy qui me les a racontés. C'était lui le chercheur, l'historien. Il était fou de ses archives, de l'histoire de l'île en général. On a passé quelques belles soirées autour de cette histoire.
Et le trésor ?
Plus de nouvelles pendant un certain temps. On peut noter, si ça vous intéresse, l'histoire d'un bagnard passé par l'île et devenu richissime en 1819. Un genre abbé Saunière, le curé de Rennes-le-Château. Il a fait fortune à Cleveland et y a fait construire une sorte de petite église vaguement ésotérique. Je m'amuse avec cette histoire dans l'Ilien. Mais entre nous, à la différence du curé de Rennes-le-Château, mon bagnard enrichi miraculeusement était un escroc notoire. Reste tout de même l'affaire du jeune Lucien Verger.
Lucien Verger ?
Un métayer de 18 ans, qui exploitait les terres à l'abandon de l'abbaye. Un pauvre gars de Lille. C'est évidemment Jean-Rémy qui a exhumé cette histoire. Elle raconte que ce Lucien Verger aurait déclaré avoir découvert un trésor. Un véritable trésor. C'était en 1914. L'année suivante, il est parti à la guerre et n'en est pas revenu. Il a emporté son secret avec lui. Enfin, dernière trace, en 1937, l'aumônier de la citadelle, qui faisait aussi office de curé des ruines et de la croix Saint-Antoine. Il était devenu fou et racontait que le diable l'avait tenté avec le trésor de l'île, mais que jamais il n'avait osé puiser dans le trésor. Le trésor maudit.
Des témoignages toujours recueillis par Jean-Rémy ?
Oui, un fou de plus, Jean-Rémy. Il s'était notamment beaucoup intéressé à l'histoire du jeune métayer, Lucien Verger. Et surtout, on prétend qu'il a fini par le trouver, le trésor, la folie Mazarin. Mais lui aussi a emporté son secret dans sa tombe. Il s'est suicidé.
Suite à l'accident du chantier des Sanguinaires ?
Exact. Le terrain lui appartenait. Ils effectuaient des fouilles, d'abord parce que c'était un archéologue passionné, mais aussi sans doute parce qu'il espérait trouver ce fameux trésor. Un soir, il y a 10 ans, on discutait tous les deux au pied de la croix Saint-Antoine, une bière à la main. Il me confia qu'il pensait avoir compris, avoir découvert le mystère de la fortune de Mazarin. Il a refusé de m'en dire plus. Quelques semaines plus tard, la grue s'est effondrée.
Clara regarda sa montre avec énervement. Simon fit mine de ne pas remarquer.
« Et vous, Delpech, vous n'avez pas envie de creuser davantage cette histoire, d'aller plus loin ?»«
Pas vraiment, non. Tous ceux qui se sont mis à y croire sont morts.
Et puis, la folie Mazarin, c'est mon gagne-pain.
Le jeu, c'est d'appâter les touristes, quelques illuminés qui viennent avec des poils à frire pour détecter de l'or sur les plages, des touristes qui visitent le coin, qui, du coup, en lisant mes articles, vont avoir envie de découvrir les ruines de l'abbaye. Ça fait de mal à personne. » Ça rapporte à tout le monde.
Simon insista. Mais vous, Delpech, vous y croyez à la folie Mazarin ? Delpech prit le temps de réfléchir avant de répondre. Clara le coupa. Il est bien trop trouillard pour te répondre, oui. Mais évidemment qu'il y croit, comme tout le monde sur cette île de Maboul. Mais il a peur de je ne sais quelle malédiction. Alors il joue les incrédules qui abusent les crédules.
C'est exactement ça,
sourit Delpech en allumant une nouvelle cigarette indonésienne. L'odeur était insupportable. Delpech poursuivit.
« Sans peur, mes enfants, on ne survit pas longtemps sur cette île. Si je suis encore là, 15 ans après, avec mon journal, c'est parce que j'ai toujours su ne pas aller trop loin. Rester à la surface, être prudent, ne pas faire trop de vagues. Tenir le seul journal de cette île, c'est tenir une position d'équilibriste très instable. Mais bon, j'ai l'habitude. Et des dossiers, bien à l'abri. Ça aide à se protéger. »
Un silence s'installa. Clara bâilla à nouveau.
« Je retourne me coucher, » fit Simon.
Il crut que Clara allait dire « Moi aussi », mais non. Elle allait rester en terrasse avec son belâtre qui jouait le journaliste libertaire seul contre tous. Avant de partir, repoussant sa chaise, il lança un regard de policier sévère à Clara, lui signifiant de continuer à se taire lorsqu'il aurait le dos tourné. Si jamais demain, pensa Simon, Lilien fait sa une sur le lien entre Valerino et l'accident des Sanguinaires, tu vas m'entendre, Clara. Il consulta sa montre. Près d'une heure du matin. Le joli corps de Candice l'attendait juste au-dessus. Une peau à caresse pour s'endormir. De toute façon, il savait, rassuré, qu'à cette heure tardive, il était impossible pour Delpech de modifier la première page de son édition du lendemain matin.